Salut à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Point de vue, votre tour de l'actualité locale au pays. Aujourd'hui, l'Acadie, entre autres, est à notre programme parce qu'on commémorait le 28 juillet dernier et dans toute l'Acadie, le grand dérangement de 1755.
C'est important de se souvenir. Il faut faire du bruit. Chaque petit geste, c'est comme planter des graines. Puis quand on plante des graines, ben souvent, ça fait des belles forêts.
Les citoyens de Chétiquan tentent d'obtenir une circonscription protégée à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse.
Il faut que la population acadienne de cette circonscription-là soit considérable assez pour qu'on ait une chance d'élire un représentant qui parle français et d'origine acadienne.
Puis on bifurque vers Ottawa où une nouvelle page se tourne pour Le Coin du Livre, la seule librairie francophone de la région.
Tu sais, mon père m'a toujours monté de foncer, puis je vais te dire, ça va être un nouveau départ.
On profite évidemment de la belle saison et ça swing dans les parcs de Québec.
C'est génial. On est tellement dans de l'échange avec tout le monde. On change de partenaire, on bouge, on réfléchit, mais on réfléchit pas en même temps.
J'aime ça voir les gens danser. En tout cas, je trouve ça joyeux et j'ai toujours voulu danser. C'est certain que si je pourrais, j'y serais.
À Toronto, les tout-petits passent un été tout en français au canton de Sonne. Ceci et plus encore à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, merci d'être là. Un plaisir, comme toujours, de vous accueillir. Boris Chassagne au micro avec vous pour la prochaine demi-heure. On met le cap sur les maritimes où les Acadiens de la région de Chétiquan se sont fait entendre lors d'une série de 3 consultations publiques organisées par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Écosse. La commission spéciale est chargée de revoir les limites électorales du comté d'Inverness dans le but de mieux représenter les électeurs de cette région acadienne de Chétiquan. Elle invite la population à donner son avis sur cette question. Une douzaine de personnes ont d'ailleurs présenté des mémoires favorables à la création de cette future circonscription protégée lors de la dernière rencontre de la commission. Daniel Aucoin en parle ici avec Kenneth Deveau, président de la commission de délimitation de la circonscription, et Régent Aucoin, sénateur et un des principaux militants pour la cause d'une circonscription protégée à Chétiquan.
Canute, comment on résume les présentations de ce soir? Vous êtes satisfait de ce que vous avez entendu?
Très satisfait. Bien, merci de la question. Très satisfait des présentations de ce soir. Et même ému jusqu'à un certain point de la passion, de l'espoir aussi que je vois dans la communauté. Donc, j'ai attendu plusieurs personnes parler ce soir et je voyais beaucoup de personnes dans la salle qui hochaient la tête et qui étaient d'accord. Mais l'espoir que les gens de Chétiquan ont toujours dans leurs avenirs, dans leur région. On reconnaît, on est réaliste devant les défis, mais je suis très encouragé de voir l'énergie dans cette salle ici et dans cette belle communauté-là qui est Chétiquan.
Rappelle-nous les prochaines étapes à partir de ce soir.
Merci beaucoup de cette occasion. Donc, les prochaines étapes, justement, nous, on doit retourner en comité ou en commission puis faire notre rapport. Ici, c'est important de savoir que s'il y a des gens qui écoutent ceci et qui auraient des commentaires à nous faire, il n'est pas trop tard. Vous pouvez nous envoyer des courriels à l'adresse de la commission. Vous pouvez nous trouver, je suis sûr, qu'aux 3 pignons qui pourront vous fournir l'adresse e-mail de la commission. Gênez-vous pas de nous envoyer vos commentaires. Nous, on rentre en phase de rédaction et de décision, un rapport intérimaire qui va présenter 2 options et on sera de retour à l'automne pour entendre les opinions des personnes sur ces 2 options-là. Le rapport final va être présenté d'ici la fin janvier.
Kenneth Deveau, merci beaucoup. Bonne chance.
Merci, Daniel. Bonne chance à vous.
Régent Aucoin, bonsoir.
Bonsoir, Daniel.
Comment on se sent à la fin de cette consultation ici à Chétiquan ce soir?
Absolument très, très, très content. J'ai entendu toutes les présentations, il y en avait 13, et tout le monde, je pense, s'est complété et a vraiment, vraiment bien parlé. Et je ne sais pas quoi d'autre qu'on pourrait dire pour convaincre la commission qu'on a besoin de cette circonscription protégée et où la ligne sud devrait être. Il n'y a pas d'autre chose à dire.
C'est quoi tes commentaires au sujet de la composition de la commission? C'est quand même des gens qui ont l'Acadie de la Nouvelle-Écosse à cœur.
Oui, plusieurs sont d'origine acadienne, mais même comme Glenn Graham était sur la première commission, ou la commission de 2018, ça fait qu'on a, je pense qu'on a, on a eu l'oreille de tous les membres de la commission. Et j'ai regardé leur réaction, même l'anglophone, les deux anglophones qui étaient là, ça semblait, je pense qu'ils l'ont beaucoup apprécié et ils vont tenir compte de nos commentaires.
On sait que ça fait 100 ans aujourd'hui ou cette année, 1925, dernière fois que la région a eu une certaine représentation politique. On est quand même confiant, le juge a donné raison à la Fédération acadienne et à la communauté. Tu es confiant que prochainement, finalement, les Acadiens de Chétiquan seront représentés comme ça à l'Assemblée législative, il n'y a pas de doute?
Absolument. C'est une dernière étape. Je pense qu'il faut qu'ils nous donnent une circonscription petite assez. Ils peuvent leur donner la grandeur qu'ils veulent en termes de géographie, mais il faut que la population acadienne de cette circonscription-là soit considérable assez pour qu'on ait une chance d'élire un représentant qui parle français et d'origine acadienne.
Rappelons que les électeurs de cette région acadienne du Cap-Breton réclament depuis 3 décennies une représentation effective à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. À l'automne 2024, le juge Pierre Muse de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a reproché à la commission de 2019 de ne pas avoir utilisé pour Chétiquan les mêmes critères qu'elle a utilisés pour recommander le rétablissement des circonscriptions acadiennes protégées d'Argyle, de Clare et de Richmond. La commission de délimitation des circonscriptions électorales doit soumettre un rapport d'étape d'ici le 29 août 2025 et un rapport final d'ici le 30 janvier 2026. Ici Daniel Aucoin pour IJL à Chétiquan.
Acadie toujours, où l'on commémorait le 28 juillet dernier le grand dérangement de 1755, celui de la déportation des Acadiens. Reconnu officiellement depuis 2003 au Nouveau-Brunswick, la date du 28 juillet 1755 marque le début de l'un des événements les plus tragiques de l'histoire acadienne. Et pour la souligner, les cloches résonnent à 17h55 dans plusieurs villes de l'Acadie pour rappeler symboliquement ce grand dérangement. Des monuments ont été érigés dans des lieux comme Dieppe, Halifax et Grand-Pré pour honorer la mémoire des déportés et rappeler à la fois la souffrance et la résilience de nos ancêtres, précise Nicole Arsenault-Sleuter, présidente de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, qui est ici au micro de Sébastien Caron à Fredericton.
L'histoire de l'Acadie est de moins en moins connue dans la francophonie. Et le 28 juillet 1755, c'est là que ça a commencé, qu'on a commencé la déportation des Acadiens, de mes ancêtres qui ont survécu, une chance. À chaque année, depuis 2003, il y a une sanction royale. On célèbre, puis un peu partout en Acadie, on retrouve des monuments. Il y en a un à Dieppe, il y en a un à Campbellton, il y en a un à Halifax, Grand-Pré. On se rappelle de cette journée tragique qui a commencé cette déportation des Acadiens. Les Acadiens qui n'avaient pas voulu faire serment d'allégresse au roi à ce moment-là. Puis on célèbre la souffrance puis la résilience du peuple acadien ce jour-là. C'est notre histoire, hein? Faut pas l'oublier.
Pour la SNB, cette journée est aussi l'occasion de transmettre l'histoire aux jeunes générations, car selon la présidente de la SNB, l'ignorance affaiblit la résistance.
Il faut jamais arrêter. C'est important de se souvenir. C'est important. On se souvient qu'est-ce qui est arrivé aux Autochtones. Puis nous, comme peuple acadien, on n'est pas encore reconnu au niveau fédéral. C'est des choses qu'on a beaucoup, beaucoup amenées dans la campagne électorale qu'on vient d'avoir. Puis on espère que ça va se faire. Puis on espère aussi, nous, à la SANB, la Société de l'Acadie Nouveau-Brunswick, qu'on a eu une résolution au mois de juin qui est de travailler avec le ministère de l'Éducation pour mettre de l'emphase et enseigner plus à nos enfants. Parce que si on ne comprend pas, si on ne connaît pas notre histoire, mais c'est un peu dangereux. Puis au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus dangereux au Nouveau-Brunswick? C'est que dans les statistiques, ça démontre que la population régresse. On est à 33 % au prochain recensement va probablement être en dessous du 30 %. On a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour ralentir l'assimilation.
La SNB aussi souhaite renforcer l'enseignement de l'histoire acadienne dans les écoles et soutenir les efforts pour une reconnaissance nationale de la déportation des Acadiens.
Il faut faire du bruit, il faut rappeler à tous nos francophones, puis il faut que les anglophones aussi connaissent. On peut être acadien puis assimilé par les semaines anglais. Au jour d'aujourd'hui, on en a beaucoup encore qui sont comme ça, surtout à Saint-Jean, à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse. Même s'ils sont assimilés et ne parlent plus le français, qui ont perdu la langue, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins acadiens.
Alors que Nicole Arsenault-Sleuter s'apprête à vivre son dernier 15 août comme présidente, elle invite les Acadiens à se mobiliser, à se souvenir et à célébrer leur identité.
Chaque petit geste, c'est comme planter des graines. Puis quand on plante des graines, ben souvent, ça fait des belles forêts.
Et dans cette Acadie en mouvement, la mémoire reste une boussole pour Nicole Arsenault-Sleuter. Ici Sébastien Caron pour IJL à Fredericton.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Et justement, pour souligner la journée de commémoration du Grand Dérangement, notre journaliste Miramichi Vincent Lavoie a rencontré l'historien et archiviste de carrière, Ronnie Gilles Leblanc, très investi dans la recherche de nouvelles sources pour mettre en lumière les périples des Acadiens qui se sont réfugiés un peu partout en Amérique durant et depuis leur déportation.
Il faut retourner aux sources. C'est toujours ça, c'est toujours ce qui est essentiel. Quand on retourne aux sources, aux documents de l'époque, puis maintenant, on a beaucoup de documents qui nous reviennent des journaux anglo-américains. Une source qui a été négligée par les historiens, largement négligée par les historiens jusque-là. On se base surtout sur la correspondance officielle, sur des mémoires, des rapports, mais toujours en provenance des instances gouvernementales ou de l'armée ou quoi que ce soit. Mais là, les journaux anglo-américains, eux autres, nous livrent une autre perspective, une autre version. Souvent. C'est des officiers qui écrivent à Boston, qui vont relater ce qui se passe durant le siège de Fort Beauséjour. Et dans cette nouvelle source-là, on se rend compte finalement que ça vient confirmer ce qu'on trouve dans les documents français, ça vient confirmer ce qu'on trouve dans d'autres, mais quand même. Alors, c'est retourner aux sources. Et quand on fait parler des documents, on se rend compte que non, c'est pas si simple. C'est pas si évident que tout ça, là.
Monsieur Leblanc travaille actuellement sur une biographie de Joseph Broussard, un résistant acadien connu sous le nom de Beau Soleil et dont le carrefour Beau Soleil de Miramichi tire son nom. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur fréquenceinfo.ca.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
Conserver sa littératie quand on est francophone en Ontario est parfois plus difficile qu'ailleurs, surtout quand on affectionne le médium papier. Les amoureux de la littérature francophone devront maintenant parcourir 8 km pour effectuer leurs achats alors qu'une nouvelle page se tourne pour la librairie au coin du livre d'Ottawa. Après avoir passé plus de 30 ans sur le chemin Sirville, le coin du livre, la plus ancienne librairie franco-ontarienne, déménage ses stocks au 2200 chemin Montréal à Ottawa, mais rien n'arrête Nathalie Savard, propriétaire de la librairie qui compte bien garder vivante la passion du livre en français dans la région.
La plus ancienne librairie franco-ontarienne se prépare à tourner un chapitre important de son histoire. Après plus de 30 ans sur le chemin Sirville, le coin du livre déménage au 2200 chemin Montréal à Ottawa. Une relocalisation qui n'était pas un choix de cœur au départ, mais plutôt une nécessité, comme l'explique Nathalie Savard, propriétaire de la librairie.
Moi, j'ai eu la surprise, début juin, mon cher propriétaire, d'augmenter mon loyer, mais pas juste un petit peu, là, à partir de 5 000 à 9 000 $ Puis là, j'ai dit non, attends une minute, là. On est une des dernières librairies franco-ontariennes qui reste. Tu sais, mon père m'a toujours montré de foncer, puis je vais te dire, ça va être un nouveau départ.
Derrière ce déménagement, il y a une détermination qui ne faiblit pas. Nathalie Savard, qui a repris les rênes en 2022 après avoir travaillé 35 ans aux côtés de son père, refuse de voir disparaître ce commerce familial fondé en 1958. Pour elle, le coin du livre est bien plus qu'une librairie. C'est un lieu de mémoire et de rencontre, un espace où la passion pour la lecture en français se transmet de génération en génération.
La francophonie, la lecture est très importante dans ma vie. Puis quand on a su qu'il augmentait notre loyer comme ça, j'aurais pu mettre la clé sous la porte. Puis avec le décès de mon papa le 6 mai, j'ai fait non, c'est une fierté. Mon père a toujours fait ça. Je n'abandonne pas. Je suis fonceuse, je vais continuer.
Ce déménagement représente aussi l'occasion de moderniser les lieux, d'offrir un environnement plus spacieux et lumineux, tout en conservant l'âme de la librairie.
Je vais pouvoir innover et faire des nouvelles affaires avec mes clients pour mieux les servir. Puis, c'est important pour moi de pouvoir servir la communauté franco-ontarienne. Oui, je vais avoir un pincement au cœur parce que j'ai travaillé 35 ans avec mon papa là, mais pour moi, à la nouvelle adresse, je vais faire un rang d'honneur quand même à mon père. Je vais y faire un mur d'honneur pour lui.
Et en attendant l'ouverture officielle, Le Coin du Livre invite le public à profiter d'une vente de déménagement jusqu'au 16 août avec des rabais allant de 20 à 80% sur une grande partie de l'inventaire.
La vente de livres va super bien. L'appel est là. On a encore beaucoup de choix, que ce soit des bandes dessinées, les romans jeunesse, les albums. On avait une très grosse inventaire. Puis, pour cette vente-là, c'est, oui, c'est éviter de faire des centaines de boîtes. Mais quand on va arriver à la nouvelle emplacement, on va faire une redisposition de notre librairie. Puis, quand les gens vont arriver au 2 septembre, l'ouverture de la librairie, il va y avoir autant de stock.
La nouvelle enseigne est déjà en place, la peinture commence et le compte à rebours est lancé. Le 2 septembre, les ciseaux dorés seront sortis pour l'inauguration officielle des nouveaux locaux du Coin du Livre. Gabriel Poulain, IJL Ottawa.
Même province, même langue, mais une autre ville, car on se déplace à Toronto, où le camp Tournesol tourne à plein régime dans la langue de Molière. Ce camp de jour francophone de Toronto accueille cet été des enfants de 4 à 12 ans, qu'ils soient débutants ou pas. Quand Annette Minka l'a visité, les animateurs, comme les enfants du camp, exploraient le thème Pokémon. Les enfants ont participé à des jeux, ils ont bricolé tout en parlant français toute la journée. Le camp Tournesol aide depuis 2001 les enfants à pratiquer leur français durant les vacances, dans un environnement qui se veut ludique et inclusif. Annette Minka s'y est rincé les oreilles au milieu des cris d'enfants.
Sur la rue Annette, dans l'ouest de Toronto, les cris joyeux des enfants résonnent jusque sur les trottoirs. Lorsque l'on s'approche de la Running Mead Presbyterian Church, on peut apercevoir des enfants courir, rire et jouer dans les jardins de l'église. C'est ici que se déroule le camp Tournesol, un camp d'été francophone qui accueille des enfants de 4 à 12 ans, de niveaux variés, pour leur permettre de pratiquer le français dans un cadre ludique.
On raconte des histoires, on fait ça en anglais et en français, alors on fait comme le style moitié-moitié. Quand on dit nos activités, on bascule en français, en anglais. C'est vraiment de préserver le français dans les communautés en Ontario, surtout parce que c'est vraiment difficile. Moi aussi, j'ai été élevée en Ontario. C'est difficile de garder son français. Et être dans un environnement comme francophone, ça l'aide énormément. C'est spécial.
Fondé en 2001, le camp Tournesol propose chaque semaine un nouveau thème. Cette semaine, les activités sont inspirées de l'univers Pokémon.
Le bureau a choisi des thèmes chaque semaine et je dirais Pokémon, ça doit être le plus populaire. Les enfants adorent ça, surtout les garçons. C'est juste, ils ont les cartes, ils ont les t-shirts Pokémon, alors ça les amuse. Maya, t'as oublié ta bouteille d'eau.
Mais pour beaucoup d'enfants, l'anglais reste la langue dominante dans leur quotidien, à la maison, à l'école, dans la rue, difficile d'y échapper.
C'est très difficile pour eux. Ils sont habitués à la télévision en anglais, la radio, les jeux, le téléphone. Être ici, on doit leur rappeler constamment, parler français, mais on fait notre mieux et eux aussi, ils s'en rappellent de temps en temps.
Même constat pour Tahir, animateur bilingue qui accompagne les plus jeunes. Ce dernier confirme que ce n'est pas toujours évident pour eux, mais que les efforts sont là.
Il y a deux groupes, il y en a certains qui sont plus avancés en français et il y en a d'autres qui sont un peu moins avancés en français. Donc, mais on essaie toujours de leur apprendre des nouveaux mots et du français. Ouais. Certains, ils trouvent ça un peu, ils ont un peu de la difficulté parfois. Il faut leur rappeler de parler français et de s'éloigner un peu de l'anglais. Mais ouais, sinon je crois qu'ils aiment bien ça.
Et du côté des enfants, à la question « Quelle est la place du français dans leur quotidien ?», les réponses varient.
Je suis allée à l'école qui est français et j'aime parler français. Ma mère et sa mère parlent en français, donc elle m'a mis dans un camp en français et mon école est aussi juste en français.
J'ai eu plein d'amis ici. Mon maman parle tout en français et aussi mon père, elle vient de Québec.
On fait beaucoup d'activités en français.
Le camp Tournesol est présent dans plusieurs villes du Grand Toronto, Mississauga, Vaughan, Oakville, North York et ici à Toronto, Bloor West. Chaque été, le camp vise à encourager l'usage du français à travers des activités adaptées à tous les niveaux. C'était un reportage d'Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.
Et pendant que les enfants s'amusaient au camp, une centaine de jeunes nord-côtiers se sont rendus à Trois-Rivières, au Québec, pour participer à la 59e finale des Jeux du Québec qui prennent fin le week-end du 2 août. Plus de 150 athlètes âgés de 12 à 17 ans représentent la région de la Côte-Nord à ces Jeux. Ils se mesurent à leur pair dans 14 disciplines sportives. Une cinquantaine d'accompagnateurs vont d'ailleurs les épauler. Le jeune Caden Anderson Driscoll, originaire de Saint-Augustin en Basse Côte-Nord et du voyage, il a déjà participé à ces Jeux, une expérience qui reste, dit-il, gravée dans sa mémoire. C'était une des plus belles semaines de ma vie. Retrouvez ce reportage de Marie-Ève Dussablon sur fréquenceinfo.ca. On court au camp de jour, on se dépasse dans les sports et on se déhanche l'été depuis 3 ans dans les parcs de la ville de Québec. Chaque jeudi, les amateurs de swing se retrouvent sur la place Limouloise pour danser. Ceci grâce à Swing Ambassade, une école de danse du vieux Limoilou, laquelle offre des cours de swing gratuits. Et même si le swing est né il y a plus de 100 ans, la copropriétaire de Swing Ambassade, Amélie Bretagne, constate quant à elle que l'engouement pour cette danse ne s'essouffle pas. Alice Zanetta à Québec.
C'est super le fun. C'est la première fois que je tente l'expérience, mais on dirait qu'on est capable quand même, avec l'aide des profs, là, de prendre le beat facilement et rapidement.
La chaleur de ce jeudi soir ne ralentit pas la vingtaine de danseurs de tout âge qui apprennent le swing sur la place Limouloise, au coin de la 3e avenue et de la Canardière. Depuis 3 ans, la Swing Ambassade se donne la mission de faire découvrir cette danse dans le vieux Limoilou. La copropriétaire de Swing Ambassade, Amélie Bertaigne.
Ça commence à 19h avec une initiation gratuite au swing qui est ouverte à tous, à tous les niveaux. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la danse nécessairement pour participer. Ensuite, à 20h, il y a des prestations, soit des troupes de la Swing Ambassade, soit des professeurs de la Swing Ambassade. Et après ça, vers 20h15, c'est une soirée 100% swing. Donc, on a des DJ qui viennent faire la musique.
Chaque semaine, la Swing Ambassade enseigne un style différent de cette danse vernaculaire. On estime que le swing serait né dans les années 20-30 de la créativité de danseurs afro-américains de Harlem. L'origine du nom, Lindy Hop, la danse originelle du swing, continue de faire débat. Il serait tiré du slang de ce quartier new-yorkais, Lindy signifiant « fille » et « hop » pour « danse ». Une autre version attribue le nom de Lindy Hop à l'aviateur Charles Lindbergh. Mais ce soir, ce n'est pas du Lindy que l'on danse, mais du jive, explique Amélie Bertaigne.
Alors le jive, c'est un style de swing qui se danse plus sur des musiques des années 50, donc Elvis Presley, ce genre de musique. Donc c'est un style qui s'est développé plus tard, après le Lindy Hop, tout ça, qui est vraiment le Lindy Hop qui est plus une danse qui s'est développée en premier là, dans les authentiques. Comme on le voit, c'est un peu plus rythmé que le Lindy Hop, avec un peu des pas en avant, en arrière. Ce qui est intéressant, c'est que quand on apprend le Lindy, il y a toute une panoplie d'autres danses à apprendre qui sont proches mais qui sont quand même très différentes mais complémentaires, qu'on peut switcher dans une même musique ou dans une même danse.
L'école de danse Swing Ambassade constate que ses cours en plein air rallient la communauté de Limoilou. Samuel, qui a découvert le swing il y a quelques années, vient danser tous les jeudis.
C'est génial comme activité, je trouve. Je fais un travail qui est comme très cérébral. Puis là, on arrive où est-ce qu'on est tellement dans de l'échange avec tout le monde, on change de partenaire, on bouge, on réfléchit, mais on réfléchit pas en même temps.
Autour des danseurs, plusieurs profitent du spectacle, comme François, un résident du quartier qui ne peut plus marcher à cause de la sclérose en plaques.
J'aime ça voir les gens danser. En tout cas, je trouve ça joyeux et j'ai toujours voulu danser, mais ma condition m'en empêche. C'est certain que si je pourrais, j'y serais.
Être dehors attire les curieux. La Swing Academy espère ainsi faire grossir les rangs d'adeptes dans la capitale nationale. Amélie Bertaigne.
La communauté de Québec est vraiment grandissante. Je pense que toutes les écoles, on travaille vraiment conjointement pour faire valoir la culture du swing, puis faire en sorte qu'il y ait toujours plus d'événements, puis plus d'opportunités de faire venir des personnes qui ne dansent pas. Nous, on voit clairement de plus en plus d'inscriptions, puis de plus en plus d'intérêt.
Cette année, la Swing Ambassade a décidé d'offrir des cours gratuits dans Saint-Roch les mardis soirs au Parc des Pécans. L'école de danse prévoit également une semaine de portes ouvertes début septembre. Alisa Netta pour EJL à Québec.
Et on remonte maintenant plus au nord vers Issipit, rejoindre Maxime Jaudoin qui revient du troisième rendez-vous des aviateurs, les Ailes du Nord, qui se tenait le 19 juillet dernier au hangar festif de la municipalité des Bergeronnes. Pilotes et amateurs d'aviation en ont profité pour partager leur passion commune pour les avions. L'événement est désormais bien enraciné en Haute-Côte-Nord, comme l'affirme l'organisateur de l'événement, Éric Maillet.
C'est la meilleure année qu'on ait eue. Les pilotes ont répondu. On a eu jusqu'à 23 avions. À un moment donné, ils ne sont pas tous restés parce que certains devaient partir parce que la météo dans leur coin était mauvaise. Puis il y en a qui travaillaient, fait qu'ils ont été obligés de rentrer plus tôt. Les gens qui se promènent, qui voient un avion, sont toujours ébahis. Fait qu'on voulait mettre en contact les pilotes, leurs machines et le public. Puis les pilotes, quand ils arrivent ici, ils sont heureux. Il y a des toilettes, il y a un service. On a offert, la municipalité a offert des transports, des vélos électriques pour les pilotes s'ils veulent se déplacer, faire des courses. Donc, il n'y a rien de mieux. Et puis les pilotes en sont heureux.
Merci à Maxime Jaudoin.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Et en terminant, vous dire que Camille Dany, postée à Plamondon en Alberta, nous rapporte qu'une plaque commémorative sera déposée au cimetière Saint-Michael de Saint-Paul pour honorer les Ukrainiens qui ont été injustement internés au Canada durant la Première Guerre mondiale. Ce projet est porté par la Fondation Ukraino-Canadienne pour les libertés civiles. Rappelons que plus de 5000 Ukrainiens ont été internés en tant qu'ennemis étrangers sous la loi des mesures de guerre. Ils ont été internés dans des conditions évidemment difficiles, condamnés au travail forcé et privé, il va sans dire, de leurs droits civiques. Cette plaque commémorative rendra aussi hommage à deux personnes d'origine ukrainienne qui ont vécu dans la région, Annie et Euphrosenia Antcherak, qui ont été internés durant la Première Guerre, ont trouvé d'ailleurs leur dernier repos justement à Saint-Michael. Camille Dany revient sur ces événements en compagnie du docteur Amil Chapka. Retrouvez ce reportage sur fréquenceinfo.ca. Alors voilà qui conclut cette autre édition de Point de vue. Merci à nos journalistes que sont Maxime Jaudoin, Sébastien Caron, Alice Zanetta, Gabriel Poulain, Daniel Aucoin, Vincent Lavoie, Annette Minka et Camille Dany. On avait une grosse équipe aujourd'hui. Rédaction nationale, Julia Chinu et moi-même, Boris Chassagne. Ici, à l'animation et à la réalisation, Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire et l'initiative de journalisme local. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir tenus compagnie et à votre radio ici présente de nous donner une voix. Merci aux musiciens et musiciennes qui nous accompagnent tout au long de cette émission, tels que Savannah qui nous offre ici Acid Beach. Pour conclure l'émission, profitez bien du temps qui passe. À la semaine prochaine. Ciao!
radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.